carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, l'Académie des Beaux-Arts a proposé une journée Debussy le 24 octobre 2012 en commémoration du 150e anniversaire de la naissance du célèbre compositeur, mort trop jeune avant d'avoir pu être élu membre de cette Académie. Plusieurs intervenants parmi les meilleurs connaisseurs ont été invités par le président de l'année François-Bernard Michel. La journée était animée par le musicologue Gilles Cantagrel. Vous allez entendre maintenant, après un court propos d'introduction par Gilles Cantagrel, le jeune musicologue Emmanuel Rebel, qui a intitulé son intervention « Debussy et ses contemporains musiciens ».
Nous allons quitter ce monde de Proust, et pas seulement d'ailleurs de Proust, de l'ensemble des salons que vous avez voulu évoquer, toujours trop rapidement bien sûr, mais c'était passionnant, pour aller rencontrer les contemporains musiciens, cette fois-ci, de Claude Debussy. On connaît les admirations de Debussy pour tous ses prédécesseurs, à commencer par Palestrina, ce qui peut paraître curieux, mais dont il avait eu la révélation à Rome, et puis Rameau, Chopin, Moussorgsky, Wagner, bien sûr. On connaît aussi ses rejets, mais ses contemporains. Alors, le musicien paraît parfois préférer la compagnie des peintres et la fréquentation des écrivains. N'empêche que le compositeur le plus en vue de la société de son temps, qu'il est, n'en est pas moins en contact avec ses collègues. Relation d'admiration parfois ambiguë, sinon difficile, et parfois conflictuelle, avec Eric Satie, avec Ravel, avec Stravinsky, avec tant d'autres. De plus, son activité de critique musicale le tient informé de tout ce qui se produit dans la capitale. Par exemple, il a vu et entendu Richard Strauss diriger ses œuvres, Gustav Mahler diriger ses œuvres au concert, et il commente. Pour prendre une juste vue des relations de Debussy avec ses contemporains, des appréciations qu'il a pu porter sur leurs œuvres, nous disposons de plusieurs sources, en particulier ses écrits imprimés de critiques, par exemple, mais qui sont écrits, rédigés avec soin, chaque mot y a été délicatement pesé, mais surtout dans leur spontanéité des innombrables lettres et billets écrits par le compositeur. C'est une énorme correspondance qui a enfin été publiée depuis peu. Il y a plus de 2300 pages en un seul volume chez Gallimard. Et cette synthèse va nous en être très légèrement proposé par Emmanuel Rebel. Emmanuel Rebel, vous êtes l'un des plus brillants musicologues de la jeune génération, ancien élève de l'École normale supérieure et du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, agrégé, doctoresse lettres, maître de conférences, habilité à diriger des recherches en musicologie, et vous vous partagez aujourd'hui entre l'Université de Nanterre et l'École normale supérieure, où vous êtes responsable d'un séminaire consacré aux liens entre musique et littérature. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Je signale en particulier un magnifique livre, Faust, la musique au défi du mythe. Cher Emmanuel, à vous.
Le 1er décembre 1920, la revue musicale publie un tombeau de Debussy. 10 compositeurs participent à cet hommage posthume. Ducas, Roussel, Malipiero, Gossens, Bartok, Schmidt, Stravinsky, Ravel, Falia et Satie, tous français et étrangers, livrent une pièce inédite au cher Claude de France. L'affiche est prestigieuse. Elle révèle le cosmopolitisme persistant d'un Paris dans lequel Debussy vécut et noua de multiples relations. Elle suggère également la force d'un certain nombre de liens humains ou artistiques, si l'on en croit la pièce de piano de Paul Ducas, poétiquement intitulée « La plainte au loin du faune », ou encore l'élégie de Satie, écrite, je cite, « en souvenir d'une admirative et douce amitié de 30 ans ». Évoquer aujourd'hui Debussy et ses contemporains musiciens revient donc à aborder le vaste réseau des relations nouées par l'auteur de Péléas. Invitation à mêler propos biographiques et considérations esthétiques en nous attachant à la fois à l'homme, ses maîtres et ses condisciples, ses amitiés, ses inimitiés, et à l'artiste qui eut à se positionner parmi les courants musicaux de son temps et qui eut également, en tant que critique, l'occasion de juger publiquement la musique de ses contemporains. La difficulté de ce sujet foisonnant tient à deux éléments pour le moins déconcertants. Sur le plan personnel, tout d'abord, Debussy eut peu d'amis musiciens. Or, ceux à qui il fut le plus lié, comme Chausson ou Satie, appartenaient à d'autres courants de composition dont il ne partageait point les principales orientations. Sur le plan artistique, ensuite, il reste aujourd'hui difficile de connaître les véritables opinions de Debussy sur ses contemporains, car celles-ci sont souvent ambivalentes et se dissimulent derrière un apparent détachement où l'humour, voire l'ironie, noie la sincérité. Autant il n'hésita point à s'enflammer pour certains musiciens du passé, Palestrina, Victoria, Rameau, Weber, Chopin, Moussorgsky, autant l'expression de ses enthousiasmes resta parcimonieuse à l'égard de ses contemporains. Ce qui ne l'empêcha certes pas d'apprécier de nombreuses pages de Ravel, de Stravinsky ou même de Strauss. C'est en tout cas conscient de ces difficultés que je vous propose, pour dessiner une carte des goûts de Debussy, d'explorer le territoire de ces différentes relations. Commençons par les aînés français. Parmi ces aînés, qui furent ses contemporains pour au moins trois décennies, je m'attarderai peu sur Gounod, à qui il sut gré d'avoir échappé, je le cite, au génie impérieux de Wagner, et à qui il reconnut la faculté d'avoir incarné de façon emblématique un moment de la sensibilité française. Je n'évoquerai pas non plus Lalo, dont il appréciait le ballet Namouna, Saint-Saëns, envers qui il manifesta un respect poli, ni même Chabrier, avec lequel il eut au demeurant peu de contact. Son professeur de composition Guiraud, en revanche, fut un complice autant qu'un maître, que l'historiographie a trop rapidement rangé parmi les défenseurs d'une tradition révolue. Comme en témoigna par la suite Jacques Durand, le maître et l'élève s'entendaient à merveille, je le cite. Outre leur sensibilité musicale qui battait à l'unisson, ils étaient grands fumeurs de cigarettes et noctambules. Souvent, le soir, ils se rencontraient dans un petit café de la rue La Bruyère, ils jouaient au billard, et il fallait la fermeture du café pour les arracher à leur carambolage. Puis, une fois dehors, les conversations esthétiques continuaient dans la fumée des cigarettes, pendant qu'ils se reconduisaient mutuellement plusieurs fois de suite à leur domicile respectif. Debussy eut en revanche une attitude plus ambiguë à l'égard de musiciens très en vogue dans le Paris de la Belle Époque. C'est le cas de Massenet, par exemple, de 20 ans son aîné, qu'il décrit comme le plus réellement aimé des musiciens contemporains. Mais est-ce un compliment sous sa plume ? Dans un article de la Revue Blanche, Debussy semble prendre la défense de Massenet contre tous les admirateurs de Wagner. « J'avoue ne pas comprendre, écrit-il, pourquoi il vaut mieux plaire à de vieilles wagnériennes cosmopolites qu'à des jeunes femmes parfumées ne jouant pas très bien du piano. » La pointe de l'article décroche le trait. « Tout le monde ne peut pas être Shakespeare, lance-t-il, mais on peut chercher, sans se diminuer, à être Marivaux. » Assurément, pour Debussy, Massenet n'était pas le Marivaux de la musique. À la mort de Massenet, en 1912, Debussy publie une nécrologie ironisant sur la prodigieuse fécondité du maître. Écrit-il que toutes les jeunes modistes s'éveillent le matin en chantant Manon ou Werther? Et il ajoute aussitôt qu'aucune de ces jeunes femmes n'a jamais fredonné la passion selon saint Matthieu. Tout aussi perfide, du moins durant sa jeunesse, ses propos sur Fauré. Une lettre de 1898, citée par Myriane Chimène à l'instant, décrit le futur directeur du conservatoire comme le porte-musique d'un groupe de snobs et d'imbéciles. Debussy révisa néanmoins ses jugements sur celui qu'il avait rencontré à la Société nationale de musique en 1887 et qu'il avait côtoyé l'année suivante à Bayreuth. Leurs relations prirent même un tour plus amical lorsqu'Emma, un temps maîtresse de Fauré, se mit à partager la vie de Debussy à partir de 1904. Changeons de génération pour évoquer les camarades de jeunesse de Debussy. Au conservatoire, outre Maurice Emmanuel, futur auteur d'une riche étude sur Péléas, Debussy rencontre Gabriel Pierné. à cet élève de Massenet, suit comme lui la classe de piano de Marmontel et remporte le prix de Rome un an avant lui. Avec un troisième larron, Pierre Vidal, les deux étudiants se rendent régulièrement au parc Monceau pour travailler leur contrepoint. Pierre Ney témoigne néanmoins de la sauvagerie et de la timidité maladive de Debussy, y compris durant son séjour à la Villa Médicis. Vous voyez ici une photo de cette promotion des prix de Rome de la Villa Médicis, et Debussy est assis avec une veste blanche et chapeau près de ses camarades. Mais Pierre Ney témoigne, bien que vivant côte à côte, il n'y eut pas entre lui et ses camarades de véritable intimité. Il restait très solitaire et fuyait notre compagnie. Il sortait beaucoup, courait les antiquaires et faisait une véritable rafle de minuscules objets japonais qui le ravissaient. On ne le voyait guère qu'aux heures de repas. Ce n'est que beaucoup plus tard que nous avons renoué d'excellents rapports d'amitié. Par la suite, en effet, Pierre Ney dirigea souvent les œuvres de Debussy. Il fut même le créateur d'Iberia et de Jeux. Deux musiciens comptèrent encore au cours de sa jeunesse. Paul Duquin, tout d'abord, lui aussi élève de Guiraud, avec qui le jeune Achille Claude passa de longues séances à déchiffrer le répertoire de piano à quatre mains. Debussy lui dédia la Demoiselle élue en 1893, mais aussi un exemplaire des cinq poèmes de Charles Baudelaire, sur lequel on peut lire « À Paul Duquin, au nom de tout un passé d'amitié musicale et pour l'assurer de mon dévouement dans l'avenir », musique comprise. Curieuse formule qui anticipe sans doute son admiration pour Ariane et Barbe Bleue et pour l'apprenti sorcier. En retour, Duquin fut un grand défenseur de Péléas. Avec Ernest Chausson, ensuite, dont nous avons déjà abondamment parlé, Debussy entretient une correspondance fournie. L'auteur du fameux poème suivit de près les premières étapes de la composition de Péléas et, dédicataire des trois mélodies sur les poèmes de Verlaine, il y alla jusqu'à aider financièrement son ami, comme l'a rappelé Myriam Chimène à l'instant. Une photographie montre Debussy au piano entouré de toute la famille Chausson à Luzancy, de gauche à droite. Vous pouvez voir Yvonne Leroll, Madame Leroll, Raymond Bonheur, Henri Leroll, Ernest Chausson juste au-dessus de Debussy qui est au piano, puis Christine Leroll et Madame Chausson à droite. Debussy se brouilla avec Chausson au moment de la rupture de ses fiançailles en 1894. Par la suite, d'ailleurs, il perdit d'autres amis au moment de sa séparation d'avec Lily, sa première épouse. En réalité, au-delà même de ses considérations purement biographiques, il se tint à distance respectable de bien de ses contemporains qu'il jugea parfois sévèrement. Il faut dire que son positionnement esthétique le rendit allergique au courant de l'opéra réaliste en plein épanouissement au passage du siècle. Sans surprise, Debussy abhorrait l'esthétique de Gustave Charpentier. Qu'aurait bien pu partager l'auteur de Péléas avec celui de Louise ? Loin du quotidien et de son prosaïsme, son territoire de prédilection restait bien celui du rêve et du mystère. Il n'appréciait pas davantage Alfred Bruno, même si ce dernier fut un chaleureux défenseur de l'après-midi d'un faune, puis de Péléas. On ne pouvait demander à Debussy, le musicien de Maeterlinck, féru de symbolisme littéraire, d'apprécier le chef de file du naturalisme musical qu'il collabora pendant près de 15 ans avec Zola. Debussy ne tenait pas non plus le post-franquisme en odeur de sainteté. Autant dire que ses relations avec Vincent d'Indy ne furent guère chaleureuses. S'il rendit compte élogieusement de l'un de ses opéras, il resta à distance de ce fondateur de la Schola Cantorum, un lieu d'enseignement qu'il critiqua souvent et qu'il jugeait trop dogmatique. Un attrait commun pour la musique ancienne aurait pourtant pu favoriser leur relation. Ce même goût aurait pu le rapprocher de Louis Diemer ou de Wanda Landowska, mais jamais il n'assista aux concerts historiques de ces derniers. Debussy était sans doute plus proche des conceptions esthétiques de Reynaldo Hahn ou surtout de Ravel. Mais des sentiments de défiance réciproques l'emportèrent peu à peu sur les complicités artistiques. Ces dernières étaient pourtant manifestes, dans le cas de Ravel, par exemple. Même passion pour les Russes et pour Moussorgski. Même attrait pour l'Espagne. Même fascination pour l'univers aquatique. L'un et l'autre signèrent une ondine pianistique. Mais aussi même pudeur, même goût du masque, même art de l'ironie, même génie de l'orchestration. Debussy avait fait la connaissance de Ravel vers 1901, et leurs relations furent amicales jusqu'en 1905, l'année du troisième échec de Ravel au Prix de Rome. Un incident éclata à propos de la Habanera de Ravel, l'une de ses toutes premières pièces, qu'il prêta à Debussy sous forme de manuscrit. Or, ce dernier lui reprit un procédé de pédale tout à fait caractéristique dans son propre prélude « Soirée d'engrenade », ce qui suscita l'ire de l'auteur du Boléro. Mais au-delà de ces querelles de préséance, Debussy resta toujours laconique sur la musique de Ravel. Parfois même émit-il quelques jugements ironiques. « C'est artificiel et chimérique, un peu comme la maison d'un sorcier », écrivit-il par exemple au sujet des histoires naturelles. En réalité, il n'appréciait point le goût prononcé de Ravel pour les artifices en tout genre. « Ce qui m'agace, déclara-t-il, c'est son attitude de faiseur de tours, ou mieux, de fakir charmeur, qui fait pousser des fleurs autour d'une chaise. Malheureusement, un tour, c'est toujours préparé, et ça ne peut étonner qu'une seule fois. » À la poésie ravelienne de la séduction, si envoûtante soit-elle, Debussy oppose sans doute une poésie du mystère, plus dense à pénétrer, plus mallarméenne également. Ravel, en revanche, continua à défendre la musique de Debussy, qu'il orchestra et transcrivit à plusieurs reprises. S'il adopta durant la guerre une position internationaliste, qui ne fut point celle de Debussy, il ne manqua jamais d'exprimer par la suite l'étendue de son admiration tout en rappelant son indépendance par rapport à la musique de son aîné. Rapporté à ce contexte de distance vis-à-vis de ses contemporains français, les liens solides que Debussy noua avec Erik Satie apparaissent presque incongrus. Tout aurait dû a priori séparer les deux hommes. Une origine très différente, une trajectoire sociale totalement opposées, des conceptions esthétiques aux antipodes. Pourtant, une longue amitié, née en 1892, résista même aux turbulences de sa vie sentimentale. Debussy, ici avec Erik Satie, continua à recevoir souvent à déjeuner l'auteur des Gymnopédies, qui venait à pied d'Arcueil pour lui rendre visite à Paris. Est-ce la singularité de ce musicien fantasque qui le séduisit ? Peut-être, si l'on en juge la dédicace des 5 poèmes de Charles Baudelaire, signée le 27 octobre 1892, pour Erik Satie, musicien médiéval et doux, égaré dans ce siècle, pour la joie de son bien amical Claude Debussy. Faut-il invoquer un même sens de l'humour, une commune anglophilie ? Ou bien le fait que Satie n'était point en mesure de faire ombrage à Debussy. Une part de mystère demeure, dans la mesure où une grande partie de leur abondante correspondance a disparu. Élargissons à présent notre entreprise cartographique pour évoquer les liens de Debussy avec ses contemporains étrangers. Que connaissait-il de leur musique? Comment l'appréciait-il? Le cas des Italiens peut être réglé rapidement. Debussy se montra sceptique par rapport aux expériences futuristes de Marinetti et de Russolo, mais il était tout autant étranger au vérisme contemporain. « Pourquoi parler de l'opéra italien moderne ?» écrit-il dans une interview de juin 1914. « Ce serait lui attribuer une importance dont il reste absolument dépourvu. La majeure partie du public se délecte dans la vulgarité et le clinquant, et c'est de tout temps conclu dans le mauvais goût. » Du côté des Allemands, Debussy apprécie Richard Strauss, dont il entend la musique, notamment au concert L'Amoureux en 1903. Romain Rolland rapporte une fameuse scène durant laquelle Strauss, dans une loge de l'Opéra Comique en 1907, lui aurait avoué ne rien comprendre à Péléas. Ce qui n'empêcha point l'auteur de Salomé et d'Electra de diriger la musique de Debussy en Allemagne, comme la plupart de ses contemporains, d'ailleurs, de Reger à Schönberg, en passant par Busoni. Mais c'est des Russes et des Espagnols que Debussy se sentit le plus proche, tant humainement qu'artistiquement. Son intérêt pour Stravinsky en témoigne. Après avoir été séduit par l'Oiseau de Feu en 1910, il demande à rencontrer le jeune Russe de 20 ans, son cadet. Il lui écrit encore, après Petrouchka, « Il y a des sûretés orchestrales que je n'ai rencontrées que dans Parsifal. » Vous comprendrez ce que je veux dire, j'en suis sûr. Vous irez plus loin que Petrouchka, c'est certain, mais vous pouvez déjà être fier de ce que cette œuvre représente. Dans la bouche de quelqu'un avare en compliment, c'est tout à fait précieux. L'année suivante, on les retrouve chez Louis Lalois. Tous les deux jouent le Sacre du Printemps à quatre mains, près d'un an avant sa création parisienne. Au printemps 1913, pour la nouvelle saison des ballets russes dans le flambant neuf Théâtre des Champs-Élysées, Debussy souffre néanmoins de voir son propre ballet « Jeu » éclipsé par le scandale du Sacre. Peut-être est-ce cette secrète jalousie qui l'amènera à tenir des propos contrastés sur la nouvelle coqueluche du Tout Paris. « J'ai vu récemment Stravinsky », écrit Debussy. « Il dit « Mon oiseau de feu, mon sacre », comme un enfant dit « Ma toupie, mon cerceau ». Et c'est exactement cela, un enfant gâté, qui parfois met les doigts dans le nez de la musique. C'est aussi un jeune sauvage qui porte des cravates tumultueuses, baise la main des femmes en leur marchant sur les pieds. Vieux, il sera insupportable, c'est-à-dire qu'il ne supportera aucune musique, mais pour le moment, il est inouï. Du côté des Espagnols, Debussy appréciait beaucoup Albéniz et fut un proche de Manuel de Falla. Il ne fit jamais le voyage en Espagne, ce pays qui le fascina tant, mais il fut paradoxalement moins marqué par ses contemporains ibériques qu'il ne leur donna lui-même une leçon de musique espagnole. Falla disait ainsi du deuxième mouvement du Quatuor de Debussy qu'il pourrait passer dans sa plus grande partie pour l'une des plus belles danses andalouses que l'on ait jamais écrites. Tout se passe comme si Debussy, mettant en forme et en son l'Espagne de ses rêves, avait stimulé l'imagination musicale des Espagnols eux-mêmes. Encore un mot à propos de Ricardo Vignès que vous voyez à l'écran, qui ne se fit certes pas connaître comme compositeur, mais comme pianiste, l'un de ceux qui servit le plus magnifiquement la musique de Debussy. De 13 ans, son cadet, le jeune Espagnol installé à Paris avait découvert le prélude à l'après-midi d'un faune au concert Colonne. Il s'était alors écrié dans son journal intime « C'est ce que j'ai entendu de plus beau de toute ma vie ». Ce proche ami de Ravel se mit à travailler de façon acharnée les trois pièces pour piano afin de les présenter à Debussy. En étroite parenté d'esprit avec le compositeur, dès leur première rencontre, il devint le créateur des pièces pour le piano, du recueil des estampes, de l'île joyeuse, des deux séries de cahiers d'images. D'ailleurs, Debussy lui dédia Poisson d'or. Et la nièce de Vignès raconte que son oncle fut appelé par Debussy quelques jours seulement avant sa mort, en 1918, pour qu'il lui joue encore une fois ses œuvres. Nous arrivons donc au terme d'un parcours non exhaustif auquel il aurait fallu associer bien des musiciens, notamment la galerie des interprètes contemporains. Je pense au pianiste Alfredo Casella, à la chanteuse Claire Croizat, à André Messager, le créateur de Péléas, au fidèle André Caplet, et à bien d'autres encore. On aura vu, malgré tout, s'esquisser les contours d'une personnalité créatrice complexe, dissociant les amitiés personnelles et les considérations esthétiques. Au-delà d'un intérêt évident qu'il manifeste pour la musique de plusieurs de ses contemporains, Debussy, on l'a vu, adopte à leur égard la plupart du temps une attitude de distance qui peut aller du respect le plus sincère à la plus mordante ironie. Sans doute faut-il voir là, au-delà des questions purement psychologiques, la marque d'un univers créateur caractérisé par une très forte individualité dont l'intransigeance fut à la hauteur du génie. Sans doute est-ce là aussi la raison pour laquelle ce compositeur, héritier des correspondances baudelairiennes, préféra au commerce avec les musiciens la fréquentation des poètes et des peintres.
Je me permets d'ajouter une toute petite anecdote. Vous avez bien soulevé d'ailleurs le côté un peu étrange des relations entre Satie et Debussy. Satie, si je ne me trompe, était présent à la création de La Mer. Et vous savez que le premier mouvement de La Mer, que Debussy avait d'abord intitulé « Mer belle aux îles sanguinaires », il en a changé le titre pour « De l'aube à midi sur la mer », ce qui est un magnifique programme. Et Satie, à qui on demandait son point de vue sur cette œuvre nouvelle qu'il venait d'entendre, aurait répondu, il y a un très joli passage vers 11h moins le quart. Alors, merci à vous, Emmanuel Rebel, avec Myriam Simène, vous nous avez brossé un superbe portrait artistique, psychologique de Claude Debussy au fil de ses rencontres, de ses passions, des gens dont il a cultivé les salons, avec un portrait avec ses lumières et ses ombres, d'ailleurs, que vous n'avez pas caché, merci. Nous avons également de nombreux documents photographiques, en voici un, de très beaux, en compagnie de ses contemporains, avec Chausson, avec Stravinsky, avec Satie, on les a vus tout à l'heure. Et nous avons quelques portraits, cette fois-ci, de peintres.
Canal Académie vous propose la retransmission intégrale de cette journée de Bussy à l'Académie des Beaux-Arts. Vous pouvez écouter librement les autres interventions en tapant le nom Debussy dans le moteur de recherche sur notre page d'accueil en haut et à droite. Merci de votre écoute.